Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Nous allons relire les versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre 1. Lisons les versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. La semaine dernière, nous n'avons pas terminé pour des raisons d'horaire. Nous n'avons pas pu finir ce que nous avions voulu entreprendre. Donc, nous allons reprendre ces quelques versets 4 et 5 où l'apôtre Jean nous présente les différents personnages importants. Il y en a bien sûr d'autres, comme j'ai dit, d'autres personnages qui vont intervenir au cours de ce livre, mais les personnages importants. Et nous avions vu la dernière fois donc le rédacteur de cette lettre, l'apôtre Jean, ce disciple, celui qui est décrit comme étant le disciple que Jésus aimait, ce disciple qui est maintenant un homme très âgé, et qui est là pour que Dieu utilise pour écrire, pour communiquer à son Église ce qu'il a à dire. Nous avons décrit certaines choses sur l'apôtre Jean, un serviteur fidèle, un serviteur humble, un serviteur qui grandit encore, qui ne cesse d'être émerveillé face à la révélation que Dieu lui donne au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de l'œuvre et de l'histoire de l'Église. Nous avons ensuite vu les destinataires de cette lettre, les sept églises qui sont en Asie. Et comme je le rappelle encore une fois, le livre de l'Apocalypse utilise beaucoup de symboles. Et même si les sept églises sont des églises qui sont bien réelles, le chiffre 7, le nombre 7, décrit la quelque chose qui est complet, et c'est une manière de décrire l'Église toute entière, tout au long de l'histoire. Une Église qui doit faire face à la persécution montante qui va arriver à la fin du premier siècle et au début du second. Et ensuite, nous avons commencé à voir ce qui était le troisième point, c'est-à-dire l'auteur de cette lettre, celui qui envoie cette lettre par la plume de Jean. Et nous avons vu qu'il s'agit tout d'abord de Dieu le Père qui donne grâce et paix, celui qui est, c'est-à-dire qui est le même tout au long de l'histoire. C'est vrai dans le passé, c'est vrai et ce sera vrai dans le futur. Et nous avons vu que Jean utilise l'expression « qui vient » pour souligner que Dieu est actif Non seulement il est le même, et il est toujours le même, mais en plus il est actif, c'est lui qui amènera la conclusion de l'histoire. Lorsque le Fils, il enverra le Fils revenir dans la gloire, juger le monde, prendre avec lui son épouse. Et son épouse, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, remettra toutes choses entre les mains de son Père. Dieu, le Père, est de toute éternité le même. Et nous avons vu aussi que la grâce et la paix, la salutation, et que la grâce et la paix sont données aussi de la part des sept esprits. Encore une fois, le chiffre 7 est symbolique, parle de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans sa plénitude, celui qui répond aux besoins des sept églises, donc de l'Église dans sa totalité. Et pour souligner que ce n'est pas... nous avons besoin de cette grâce et de cette paix. De cette paix, comment pouvons-nous avoir la paix? C'est par cette grâce que Dieu donne, par l'œuvre de son Esprit qui agit en nous. Comment est-ce que l'Église peut briller dans ce monde et apporter ce message de l'Évangile? Nous avons souligné ce que l'Ancien Testament redit, que ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Cet Esprit nous donne grâce et paix. Et nous arrivons donc à ce troisième auteur de la lettre qui est le Fils de Dieu. Et Jean va mettre la prééminence, va souligner la prééminence du Fils de Dieu. C'est le 12e mot sur la feuille. La grâce et la paix nous viennent aussi de la part de Jésus-Christ, verset 5. Et Jean donc va mettre en évidence cette prééminence que l'on va voir dans la lettre qui va se développer tout au long de ce livre. Oui, Dieu est un, il y a un seul vrai Dieu, mais il est en trois personnes. Et dans ce livre de l'Apocalypse, si nous avons ici la présentation des trois personnes, nous allons voir que le Père et le Fils vont être, pour ainsi dire, dans l'arrière-plan, et que la lumière sera mise sur le Seigneur Jésus-Christ. Chapitre après chapitre, nous allons voir le triomphe, le règne, la victoire, la gloire de l'agneau de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que tout pouvoir a été donné sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Et c'est ce qu'il va nous être redit encore une fois, de plusieurs manières, tout au long de ce livre. C'est lui qui règne, qui est sur le trône, qui règne et qui accomplit toutes choses, et qui vient, qui accomplit toutes choses pour son peuple, pour son Église. Et donc, Jean nous présente ce Sauveur, ce Fils de Dieu. Et il le décrit de trois manières. Il nous décrit ici ses rôles de prophète, de sacrificateur et de roi. Et tout d'abord, donc, il nous décrit le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, comme étant le témoin fidèle. 13e mot dans la feuille, sur la feuille. Le témoin fidèle. Et le mot témoin est de la même famille que martyr. Jésus est venu et il a révélé le Père d'une manière parfaite. Il a révélé le salut à ce monde qui est dans les ténèbres. Jésus est venu, nous avons vu l'histoire, le récit de sa naissance avec les enfants. Il est venu dans ce monde pour faire connaître le Père, pour révéler le Père. Et il n'a cessé dans ce monde même de vivre dans cette communion intime avec le Père. Qui mieux que le Fils de Dieu pour révéler le Père, pour révéler le salut à ce monde? C'est ce que nous avons tout au long de la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 1er, dans les premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous pourrions continuer. L'auteur montre la supériorité du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux prophètes, par rapport aux sacrificateurs de l'ancienne alliance. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a annoncé, par exemple, en Jean 3 et au verset 11, qu'il est venu révéler. C'est qu'il est revenu révéler Dieu et son salut. Il dit par exemple en Jean 3, verset 11, « en vérité, je te le dis, par la Nicodème, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au Père, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, il parle déjà de sa mort. Jésus est le témoin fidèle. Il révèle tout ce que nous pouvons connaître au sujet de Dieu. Il révèle par sa vie la sainteté de la personne de Dieu. Par son enseignement, par les paraboles, il va enseigner la sagesse de Dieu. Par ses miracles, il va enseigner, il va montrer, il va révéler la puissance de Dieu. Il va révéler aussi la grâce de Dieu par l'œuvre qu'il va accomplir à la croix. Et par cette œuvre, il révèle aussi l'horreur du péché. Dieu est saint, il ne peut voir le péché, il ne peut voir le mal. Sa loi a été transgressée, et sa personne, sa sainteté a été bafouée. Le crime est si grand que la rançon qui est exigée, c'est la mort de l'homme. Et là, la mort du représentant du peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ fait homme. Jésus rend témoignage au besoin que nous avons de la grâce de Dieu. Il rend témoignage au fait que l'homme ne connaît pas la paix parce qu'il est séparé de Dieu. Il rend témoignage au fait que lui est venu accomplir ce salut et amener cette réconciliation entre Dieu et l'homme. Le Père, le Fils et l'Esprit ont décrété que le seul moyen de satisfaire la justice de Dieu, de détourner la colère de Dieu de l'homme, est que cette colère soit détournée sur le Fils qui est venu prendre la place de son peuple. On parle de la substitution ici. Dieu, le Fils, est venu se substituer à son peuple et accomplir toutes les exigences de la loi. Le témoin fidèle de la grâce de Dieu et de la paix que nous pouvons avoir avec Dieu par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le témoin fidèle est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On va retrouver cette expression, par exemple, au chapitre 3 et au verset 14, au début de cette lettre à Laodicée, écrit un ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le témoin fidèle est véritable. Mais pour bien comprendre cette expression, il faut retourner dans l'Ancien Testament, et en particulier dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Et au chapitre 43, nous lisons à partir du verset 10 jusqu'à 13, nous lisons ceci. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui l'ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? Et dans ce passage, il parle donc au peuple d'Israël, et il dit, « Vous êtes mes témoins, vous, Israël, et mon serviteur que j'ai choisi. » Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que Israël et son serviteur, celui qu'il a choisi, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui va venir dans ce monde, les témoins de quoi ? Tout d'abord, si nous lisons un peu plus loin, de la délivrance qui a été accomplie lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Verset 16, Ésaïe 43, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. » Il fait référence à cette délivrance, à cette grâce que Dieu a faite, lui qui est l'Éternel, comme nous l'a été rappelé tout à l'heure, le Dieu de l'Alliance. Mais ils sont aussi les témoins, Israël est témoin de cette grâce, de cette faveur que Dieu leur a accordée. Le Fils est le témoin aussi de cette grâce, puisque Dieu annonce aussi qu'il va faire quelque chose d'autre, qui est calqué sur cette délivrance qui a été accomplie à la sortie du pays d'Égypte. Il dit au verset 18, Ésaïe 43, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est un ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. » Et le Seigneur parle de cette délivrance qui va amener une restauration, qui va amener une nouvelle création. Dieu va accomplir une délivrance qui est plus grande que la délivrance du pays d'Égypte. Il va accomplir une délivrance qui n'est autre que la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort. Une délivrance que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu dans ce monde pour accomplir. Israël en est témoin. Le Seigneur Jésus-Christ en est témoin de cette grâce. De cette grâce que Dieu ne cesse de manifester depuis l'annonce dans le jardin d'Éden, qu'il allait envoyer un sauveur dans ce monde. Mais en utilisant cette expression que Jésus est le témoin fidèle, Jean veut aussi encourager les chrétiens dans leur témoignage. On verra que les églises ont été tentés de compromettre le message de l'Évangile à cause de la persécution. Et nous aussi, nous pouvons être tentés à cause des réactions que l'on peut craindre de la part de ceux qui nous entourent, de l'opposition. Mais Jean va par exemple rappeler de la fidélité d'Antipas en 2 Verset 13, Apocalypse, on revient à Apocalypse, chapitre 2, verset 13, il dit à l'église de Pergame, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu ne m'as pas renié, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Et plus tard, dans le livre de l'Apocalypse, il va parler de croyants qui sont mis à mort à cause de leur témoignage. Par exemple, Apocalypse 11, verset 7, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Et puis aussi, en 17, verset 6. Mais Jean veut souligner que le Seigneur Jésus, lui, a rendu un témoignage fidèle à ce monde. Pendant toute son existence, il l'a fait jusqu'à sa mort. Mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il règne. Et Jean donc veut, et le Seigneur Jésus qui envoie cette lettre, veut que son peuple, son Église soit encouragée partout où elle est, où elle va être persécutée. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que notre union est avec Christ, nous pouvons avoir cette assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Christ, comme Paul le dit en Romains chapitre 8, que nous régnerons, nous aussi, avec Christ. Et c'est ce que nous verrons tout dans ce livre, et même dans le cantique qui va s'élever à la fin du chapitre, du verset 5 de ce premier chapitre, que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par ce sang, qui a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Et plus tard, il parlera que nous régnerons avec Christ. Cela rejoint bien sûr ce que les autres apôtres ont écrit dans leurs lettres. Nous régnerons avec Christ. Nous avons dit que ce monde n'est pas un monde neutre, c'est un monde qui est hostile. La persécution peut prendre différentes formes. Et nous sommes, nous aussi, comme ces églises, sous une pression de faire des compromis, de modifier notre message, de ne rien dire qui puisse offenser. Et pas besoin d'aller très loin, il suffit de regarder les nouvelles versions que nous avons des Bibles qui sortent aujourd'hui. On enlève des termes. On ne parle plus, par exemple, de propitiation. Parce que si on parle de propitiation, ça veut dire qu'il faut parler de la colère de Dieu. Or ça, ce n'est plus quelque chose que l'on entend, que l'on voudrait entendre aujourd'hui. On reviendra sur ce point plus tard. Mais voilà, la persécution peut exister de différentes manières. La pression de compromettre existe de plusieurs manières, mais nous sommes appelés à suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a été un témoin fidèle. Il donne la grâce, il donne la paix, parce qu'il a vaincu ce monde et qu'il règne éternellement. Pourquoi ? Pourquoi se conformer à ce monde ? Pourquoi suivre les mensonges de ce monde ? Nous appartenons à un Sauveur qui est fidèle, un Sauveur qui est le témoin fidèle de la grâce de Dieu, qui l'a manifesté envers son peuple en nous donnant son propre Fils. Le témoin fidèle, le Seigneur Jésus-Christ est le témoin fidèle. La deuxième description que Jean nous donne ici, c'est qu'il est le premier-né des morts. C'est le 14e mot sur la feuille. Il est le premier-né des morts. Cela fait référence, bien sûr, à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et la mort. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Et cela parle aussi de son statut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vivant. Il règne sur la vie, il règne sur le salut, il est assis pour toujours sur le trône céleste. Et puisqu'il est décrit comme étant le premier-né, si on peut se permettre l'expression, cela veut dire qu'il y aura un second-né, un troisième-né, un quatrième-né, un cinquième-né, etc. C'est-à-dire que tous ceux qui lui appartiennent, toute l'Église, va connaître la même résurrection et être avec lui dans la gloire. Il est, pour reprendre une autre image, il est la tête et tout le corps va suivre. Paul l'écrira par exemple aux Colossiens, au chapitre 1er. Et au verset 18, Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est entré, il est ressuscité d'entre les morts. Et toute l'Église qui lui appartient, tout le corps de Christ, le suivra aussi dans la résurrection d'entre les morts. Ceux qui sont unis à Jésus-Christ par la foi le sont pour toujours. Ils sont assurés de connaître cette résurrection. Et par sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ maintenant est vivant et il sert son Église en leur donnant grâce et paix. Il est assis sur le trône, il est assis à la droite de Dieu le Père, comme le grand souverain sacrificateur. Et pour nous qui lui appartenons, pour tous ceux qui sont à lui, unis à lui par la foi, il y a toujours grâce et paix auprès de lui, parce qu'il est notre médiateur, parce qu'il est notre sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Et même si le monde nous persécute, même si le monde nous enlève la vie physique, nous sommes au Seigneur, comme le dit un cantique. Nous lui appartenons pour toujours. Et nous aussi, nous le suivrons dans la résurrection et dans la gloire. Il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de cette nouvelle création. Et le troisième terme que Jean utilise pour décrire le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il est le prince, 15e mot. Le prince des rois de la terre. Il parle de l'autorité royale du Seigneur Jésus-Christ. Et cela rejoint le psaume que nous avions vu la semaine dernière, le psaume 89. Et au verset 28, nous lisons ceci : « Et moi, dit l'Éternel, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » C'est une bénédiction pour nous, c'est une grande assurance pour nous de savoir que celui qui est souverain sur l'histoire, souverain sur les rois de ce monde, est notre Seigneur Jésus. Il est celui qui règne. Et cette expression ne parle pas du règne du Fils sur l'Église, mais il parle ici du règne sur ses ennemis qu'il a battus. Ses ennemis qui aujourd'hui s'opposent encore à lui, mais qui sont destinés à la défaite. Et dans le livre de l'Apocalypse, on va trouver l'expression similaire, les rois de la terre. Dans plusieurs passages, nous les aborderons au fur et à mesure. Mais cette expression parle des royaumes, de ceux qui sont opposés au règne du Seigneur Jésus-Christ, à son autorité. Et pas seulement des royaumes physiques, mais aussi des puissances sataniques derrière ces royaumes. Le royaume de ce prince du monde, qui est opposé au règne du Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous dit la parole ? Que nous dit la parole ? C'est que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Nous lisons en Philippiens, chapitre 2. Et les versets 8 à 9, que le Seigneur Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a hérité d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Et toute langue, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le prince des rois de la terre. Aujourd'hui, on vit dans ce pays qui connaît une crise. On voudrait avoir un gouvernement qui soit compétent, capable de diriger les affaires de ce pays. On voudrait des dirigeants qu'on pourrait éventuellement admirer, à qui on pourrait faire confiance. Des dirigeants qui indiqueraient par leurs actions qu'ils recherchent la justice, qu'ils recherchent la paix. On est bien loin de cela. Mais le croyant, celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, possède cela. Pas dans un royaume terrestre, mais parce qu'il fait partie de cette nation sainte, de ce peuple élu, ce peuple choisi, de ce royaume où Jésus-Christ est roi. Et il règne, il donne grâce et paix à ceux qui regardent à lui. Donc Jean nous décrit ici le Seigneur Jésus qui est le prophète, qui rend témoignage, un témoignage fidèle de la grâce de Dieu. Il est le souverain sacrificateur qui a vaincu le péché et la mort par son sacrifice pour satisfaire la justice de Dieu, détourner sa colère, pour maintenant intercéder en la faveur des enfants de Dieu. Il est aussi le roi sous l'autorité duquel Dieu accorde sa grâce et sa paix pour la vie éternelle. Mais il y avait une quatrième chose que j'avais dit concernant les personnages qui nous sont présentés. Et celui-ci n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné ici, mais il se trouve à l'arrière, il se trouve à l'arrière-plan. Il est fort probable que lorsque Jean écrit cela au sujet du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le prince des rois de la terre, que Jean ait pensé à un autre qui se soit assis sur un trône, qu'il ait pensé à l'empereur Domitien, c'est le 16e mot sur la feuille. Et l'histoire nous dit que cet empereur est un homme méchant, un homme qui était dangereux, un homme qui a vécu une vie de débauche, qui a exterminé tous ses proches. Il a régné par la terreur, il a laissé son frère mourir, il a séduit sa nièce, il a tué des personnes simplement parce qu'elles racontaient des blagues à son sujet. Il a exigé que l'on s'adresse à lui comme Seigneur et Dieu. Et voilà l'empereur qui est sur le trône à Rome à ce moment-là. Et l'Apocalypse a été écrite pour encourager ces croyants qui allaient faire face à la persécution de la part de cet empereur. Mais cela nous montre aussi, nous enseigne comment nous devons voir la réalité de ce monde. Et nous devons, et nous allons apprendre à la voir comme Dieu la voit, et non pas comme l'empereur la voyait depuis Rome, ni comme le président, la président de France la voit depuis l'Élysée. Quelle que soit la réalité de l'histoire, la réalité dans ce monde dans lequel nous vivons, nous pouvons être assurés qu'il y a toujours grâce et paix de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, pour tout le peuple, pour tous ses enfants qui sont appelés à être des témoins fidèles dans ce monde. Mais au-dessus aussi de l'empereur Domitien et des autres qui ont suivi, au-dessus de tout empereur, au-dessus de tout président, il y a le Seigneur Jésus, le prince des rois de ce monde, qui règne, qui gouverne l'histoire. Et Jésus a dit, entre autres, en Jean 10, verset 28, à tous ceux qui croient en lui, il leur dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Même si l'empereur va amener la persécution, même si beaucoup, au cours de l'histoire, vont être mis à mort à cause de leur témoignage, personne ne peut nous séparer, ne peut nous ravir de la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. L'empereur est très loin, très très loin de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui est le véritable souverain. L'histoire dit que cet empereur tyrannique a été un jour renversé par ses amis Lui qui a voulu se mettre à la place de Dieu, exiger que l'on adore sa personne, en fait, était quelqu'un qui était méprisé et qui ne régnait que par la terreur. Et lui est mort et il devra un jour faire face au jugement de celui qui est véritablement souverain, du Seigneur Jésus-Christ, qui est le prince des rois de ce monde. Et quand on regarde au Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il a fait l'inverse de cet empereur. Lui qui est égal avec le Père depuis toujours, qui est dans la gloire existant depuis toujours, il a mis de côté sa gloire pour un temps. Il s'est humilié et il s'est fait homme. Il est venu dans ce monde et il s'est offert en sacrifice et est allé jusqu'à la croix afin de donner grâce et paix à des pécheurs qui le reçoivent par la foi. Et parce qu'aujourd'hui, il règne, et son règne est un règne d'amour, il reçoit en retour la louange éternelle de son peuple racheté. Et c'est pour ça que nous verrons tout au long de ce livre des cantiques, et nous allons voir déjà la fin de ce cinquième verset, un premier cantique qui s'élève, et le cantique va s'étoffer au fur et à mesure, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatre personnages importants donc. Jean, le rédacteur, les sept églises d'Asie qui représentent l'Église de tous les âges, l'auteur qui est Dieu, le Père qui est, le Fils qui est ce témoin fidèle, ce premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Et Dieu, l'Esprit Saint, et bien sûr, dans l'arrière-plan, l'empereur Domitien, qui est là, qui va amener la persécution. Et lorsque Jean termine en parlant de la prééminence, en soulignant déjà la prééminence du Seigneur Jésus-Christ, on voit le premier cantique, 17e mot dans la feuille, sur la feuille, le premier cantique, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Et nous verrons ce cantique, Dieu voulant, la prochaine fois. Mais que Dieu nous aide à saisir, à comprendre et à nous réjouir de ce qu'il nous révèle dans sa parole. Que même dans les circonstances difficiles, comme nous a été rappelé au début de ce culte, même dans les moments où nous nous sentons sous un fardeau qui est pesant, levons les yeux vers le ciel, et réjouissons-nous que, au-dessus des pouvoirs de ce monde, au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ce monde, nous avons quelqu'un qui règne, le Seigneur Jésus-Christ, le prince des rois de ce monde, qui est aussi notre sauveur, celui qui est venu et qui a donné sa vie pour nous racheter, pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Que Dieu nous aide à saisir cela et à nous réjouir et à faire monter, comme nous allons voir, un cantique de louange en son honneur pour ce qu'il a fait et pour qui il est. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.